Vous écoutez la compagnie des auteurs et vous êtes sur France Culture. Nous parlons du marquis de Sade, dont Stéphanie Genant nous raconte aujourd'hui la vie. Et on le retrouve en prison où nous l'avons laissé avec cette lettre envoyée à sa femme en 1777.
Je vous répète pour la dernière fois que je deviens tout à fait fou, que la tête y pète tout à fait, et que si d'ici à très peu on ne me sort pas, ou que l'on ne me donne pas au moins la légère satisfaction de savoir mon terme, je suis décidé à tout casser, tout briser ici, sur l'homme qui me garde, essayer de me sauver, et me livrer en un mot à toutes les violences où on réduit ma tête. J'eus, avant-hier, une espèce de coup de sang, dont je n'ai rien voulu dire, dans la rage où je suis de ce que me dit le bourreau qui commande ici. Il me dit que je pourrais ou crever, ou me bien porter, qu'il n'en serait ni plus ni moins. Je mourrai à présent que je ne me plaindrai pas. Dites, si vous voulez tout cela, à votre indigne mère, qui, si elle-même, n'est sûrement pas payée de retour. Il n'y avait qu'à, du moins, me faire mettre dans une prison où l'on peut respirer l'air. Finissez tous les comptes avec votre mère, afin que je n'aie rien à faire avec elle quand je sortirai d'ici, ne voulant pas absolument la voir quand il s'agirait de l'empire du monde. Je vous prie de comprendre une bonne fois que je suis très mal et qu'entre cette prison-ci et celle que vous connaissez, il y a de la différence comme de l'enfer au paradis et que mon sort, enfin, est absolument pareil à celui de Caron.
Une lecture par Daniel Mesguich, Stéphanie Genant, pour ce jouisseur, cet aristocrate. La prison, c'est la pire des choses. Vous dites qu'il y est englouti tout vivant.
C'est une formule de sa correspondance. Et l'extrait que vous avez choisi dit bien l'enfer physique et psychologique qui a été la prison pour Sade. Il y reste 27 ans au total, sans raison. Je rappelle, la prison est insupportable quand on est coupable, mais quand on est innocent, elle rend fou, elle aliène le corps. Sade est détenu dans un cachot où l'air est irrespirable. Je l'ai visité cet été à Vincennes, ça m'a fait un effet quand même. Il n'est pas dans un carré VIP, il est vraiment dans un cachot, et en plus à la merci de surveillants généraux qui n'ont pas attendu notre époque pour être des vrais sadiques, eux. Et donc ils lui interdisent la promenade, etc. Bref, c'est l'enfer.
Ouais. Il est libéré 39 jours durant cette détention. C'est une espèce de parenthèse un petit peu enchantée au milieu d'une vie qui va être à partir de cette première incarcération, je crois qu'il a 38 ans, quelque chose comme ça, qui va être une vie de souffrance quand même.
Mais justement, ils sont importants ces 39 jours, parce que Sade ressort presque un mois
Alors,
et demi.
Comment se fait-il qu'il ressorte ?
Il ressort parce qu'en fait, il a été arrêté suite à l'affaire de Marseille, où il fuit, il est condamné à ce moment-là à mort par contumace à Aix-en-Provence, et puis il s'enfuit en Italie, et puis il est arrêté. Bon, je vais passer les détails, c'est un tout petit peu complexe, mais donc il est arrêté pour des affaires qui sont au départ des affaires de mœurs, mais qui sont jugées comme affaires criminelles. Sade aurait été coupable d'empoisonnement à Marseille.
Alors que là encore, il aurait empoisonné ses prostituées avec des petites pastilles.
Voilà, de pastilles aphrodisiaques qui, effectivement, si on en prend trop, ont des effets, des contre-indications, on dirait aujourd'hui. Et donc, l'affaire de Marseille, qui lui vaut son incarcération officielle, est jugée en cassation. Et donc, Sade obtient le droit de sa belle-mère, tyrannique, d'assister au procès qui a lieu en Provence. Et donc on le libère 39 jours. C'est très important parce que ce procès va l'innocenter. Donc il sort gracié, se disant « je suis libre ». Mais ce qu'il n'a pas compris, ou ce qu'il n'a pas voulu comprendre plutôt, c'était que sa prison ne relevait pas de la justice, puisqu'elle est innocente, mais de la lettre de cachet, autrement dit du bon vouloir de sa belle famille qui finalement le ramène en prison. Alors c'est encore pire d'avoir non seulement retrouvé la liberté, mais de voir son sort, ses fautes, si vous voulez, effacées, et de retourner ensuite dans une arrestation qui va paraître d'autant plus arbitraire qu'elle ne repose plus du tout sur, vous voyez, une accusation.
Alors en prison, que fait-il ? Parce que c'est là qu'il devient aussi l'homme de lettres que l'on connaît. Il est probable que s'il n'avait pas été emprisonné comme ça et dans ces conditions-là, il aurait probablement été un homme de théâtre, il aurait probablement écrit des pièces, mais on ne se souviendrait sans doute pas du nom du marquis de Sade.
Je sais pas, ça on peut pas savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il lit et il écrit. Il mange, il lit.
Il mange beaucoup. Il demande à sa femme de lui envoyer beaucoup à manger.
Il dévore, et quand on dit dévorer en français, c'est aussi bien des livres que des sucreries, parce que Sade aime vraiment et est très gourmand. Donc il bouffe. Il bouffe des livres, il bouffe tout ce que sa femme lui apporte, et il écrit énormément, de manière très méthodique, à la Sade. Hein, c'est vraiment quelqu'un de maniaque, qui du coup note tout sur des cahiers, etc. Tout est très consigné, il fait des projets, il écrit, et il projette son œuvre. Autrement dit, on a la totalité, ou presque, j'insiste, c'est très important, parce qu'il n'y a pas, à l'exception des 120 journées, un seul texte pornographique qu'il écrit en prison, ce qui contrevient là encore au cliché qu'on entend de Sade enfermé, qui du coup sublimerait la violence dans une espèce de tableau sexuel noir. Rien, à part les 120 journées, et c'est pas rien, hein, mais c'est un texte qu'il ne destine pas à la publication. Il écrit que du théâtre, que des romans, hein, il écrit les textes pornographiques quand il est en liberté. Ça, c'est très important parce que là encore, ça casse les associations.
Et encore, il ne les signe pas de son nom.
Non. Mais il faut qu'il soit libre, et on le voit quand on étudie sa correspondance, il faut qu'il soit aussi libre de la sexualité, ça c'est très troublant, pour écrire de la pornographie. Alors que moi, quand j'étais étudiante, je croyais naïvement que ça décrivait de la pornographie en prison pour conjurer le désir qui le consume, parce qu'il est au départ consumé par un désir qui ne trouve plus matière à se satisfaire, à part sur lui-même, évidemment. Et puis, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et au moment où il sort de prison, il dit, alors ça c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup marqué, parce que là encore, on dit ça d'obsédé sexuel très, très peu de temps dans sa vie, en fait. Alors, on ne sait pas pourquoi, peut-être la prison casse-t-elle le désir, peut-être le corps, avec toutes ses pathologies, elles sont nombreuses, éteint-il le désir. Je crois que c'est aussi, d'après ce qu'il dit dans ses lettres, j'en sais rien, une espèce de mélancolie, de dégoût d'ailleurs, dans tous les textes de Sade parle, hein, les 120 journées ne disent que ça, il n'y a rien de plus, on a envie de tuer son partenaire après l'orgasme, donc il vaut mieux pas en avoir d'orgasme. Du coup, il y a une espèce de congé donné à la sexualité dans la vie de Sade à 50 ans, qui libère étonnamment l'écriture pornographique.
Sade est dangereux, oui, mais comme lui-même dit que la liberté est une chose dangereuse et que les idées sont dangereuses. Parce que le grand apport aussi de Sade, c'est de montrer que les idées, qu'il n'y a pas d'idées sans corps et qu'il n'y a pas de corps sans idées. Ça veut dire que les idées ont aussi un répondant dans les corps. Donc c'est très concret. Et la question qu'il pose justement avec Français encore un effort aux abstractions très séduisante que propose alors la Révolution française avec les notions de liberté, d'égalité, de fraternité, ça demande qu'est-ce que ça veut dire concrètement. On s'aperçoit aussi que c'est dangereux et que d'abord la liberté est extrêmement dangereuse. C'est ça aussi que nous dit ça, et c'est en ça qu'il est moderne.
Extrait d'un entretien d'Annie Lebrun avec Michel Camus. À quoi vous fait penser cet extrait, Stéphanie Genon ?
Mais j'étais entièrement d'accord, je n'avais pas reconnu la voix d'Annie Lebrun. C'est dangereux, la liberté. Sade ne nous dit que ça, et c'est ce que je dis aussi aux étudiants quand je fais cours sur
Sade. C'est pour ça qu'il a été enfermé toute sa vie ?
Oui, parce que la liberté, ce n'est pas une liberté de salon, en fait. La liberté telle qu'il l'entend et telle que son œuvre nous la présente, c'est... Ça consiste à accepter ce qu'on est. C'est ça, la liberté. Et vivre en paix avec soi-même et avec les autres. Accepter donc aussi
le probablement
pire.
Dans le respect aussi des autres. Parce que c'est ça qu'on reproche beaucoup à Sade. En tout cas, c'est l'image qu'on a de Sade, de quelqu'un qui n'a pas respecté, au sens peut-être actuel d'ailleurs, dans lequel on entend ce terme, les femmes, les hommes avec qui il faisait des parties fines.
Oui, mais il les a respectés puisqu'il les a payés. Si vous voulez, c'est pas manquer de respect à une prostituée. Si vous la payez, elle sait pourquoi vous la payez. C'est pas pour jouer au Scrabble avec elle. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de manque de respect avec ses partenaires. Mais la liberté telle qu'il l'entend, et il n'est pas le seul à l'époque, hein, c'est accepter tout, y compris le pire. Et si vous dites aux hommes, vous êtes libre, mais ça veut dire que vous acceptez de voir que vous êtes capable du pire, que vous êtes traversé par des pulsions, tous. Vous, moi, homme, femme, riche, puissant, etc., ça coûte. Et donc, toute son œuvre nous dit à la fois cette liberté et nous dit la difficulté qu'ont les humains à l'accepter. Il dit dans Aline et Valcourt, vous dites aux hommes, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de roi, c'est vous seul qui êtes responsable de vos actes et encore de la gestion des pulsions qui vous traversent. La plupart des hommes nous disent ça dans peur. Ils préfèrent finalement, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, entre parenthèses, hein, c'est vertigineux la démocratie, la vraie. Hein, ça fait peur, en fait. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils préfèrent qu'on pense pour eux. Ça nous dit, la liberté, la vraie, elle coûte. Mmh. Elle est effrayante. Donc elle a raison, Annie Lebrun. Et c'est, au contraire, c'est la vraie liberté dont il nous parle. C'est pas la liberté, vous voyez, de salon, encore une fois.
Alors, il faut parler du moment de liberté de Sade, ces quelques années, au moment de la Révolution française. Il y a d'ailleurs un passage assez incroyable que vous racontez dans votre biographie, qui est que le 4 juillet 1789, Sade est en train d'haranguer la foule des révolutionnaires à la Bastille. Donc, on décide, les autorités l'exfiltrent, ce qui fait que le 14 juillet, il ne sera plus à la Bastille quand les révolutionnaires libéreront les prisonniers.
Mais oui, il rate ce rendez-vous avec l'histoire, c'est toute l'histoire de Sade. Il a 10 ans de liberté, en fait, enfin jusqu'en 1800, oui c'est ça, 1790-1800, on abolit les lettres de cachet, et donc Sade retrouve sa liberté. C'est une parenthèse dont il profite, même s'il a énormément de problèmes d'argent.
Il y a une déception quand même dans ce retour à la liberté, déçu des gens aussi.
Bien sûr.
Beaucoup.
Ah mais bien sûr, il rêve, il a souffert de solitude, mais quand on est resté trop longtemps loin des humains, on perd l'habitude de leur contact. Mais dans un second temps, Sade redevient très sociable, il rencontre une autre femme, Constance, une actrice avec qui il forme un couple heureux jusqu'à la fin de la vie de Sade. Et Sade se rattrape en termes de notoriété, puisqu'il a été quand même 17 ans à l'ombre, il cherche la lumière à présent, et donc il cherche absolument à faire du théâtre, à être connu comme acteur de théâtre. C'est sa passion de l'époque, et puis la Révolution arrive, et là, Sade se trouve aussi obligé de s'engager politiquement, et il le fait là encore avec beaucoup plus de nuances que ce qu'on pouvait attendre, et ce qu'on a dit aussi du personnage. Ainsi, il a raté la prise de la Bastille, c'était déjà pour moi un symbole de sa position très prudente, être là, soutenir la Révolution au sens l'avènement de la liberté, mais se méfier de tous les excès de la liberté, de ce qu'on appelle à l'époque les bonnets rouges, hein, et qui, du coup, pour tous les gens qui pensent comme ça, qui sont modérés, vont vite faire risque, en tout cas, de tirer la Révolution vers la terreur.
Alors, il est quand même citoyen Sade de la section des Piques, donc il a des fonctions qui sont officielles durant la Révolution. Qu'est-ce qui fait que les choses vont se retourner à un moment donné pour lui et que les révolutionnaires, pendant la terreur, enfin il va échapper à la terreur plus ou moins, mais vont quand même finalement le renvoyer dans l'enfermement?
Alors, c'est pas les révolutionnaires qui l'envoient dans l'enfermement.
C'est Napoléon après, oui.
Oui, en fait, Sade se trouve sur la liste des condamnés à mort de la terreur, finalement un peu in extremis. Pourquoi ? Parce que Sade est modéré. C'est-à-dire qu'il défend...
Parce qu'il est aristocrate quand même aussi,
Il est aristocrate, mais en même temps, il quitte sa particule assez rapidement, il s'appelle Louis Sade, c'est pas ça le problème. Mais il est trop modéré et il est trop athée. En fait, autrement dit, il reste fidèle à des principes. Alors, en 92, c'est pas très grave d'être modéré et athée, mais la Révolution change très vite, hein, et à partir du moment où, sous la Terreur, on n'a plus le droit d'être modéré. Et ça se méfie plus que tout des factions, etc. Et cette position de prudence, elle est insupportable. Et donc, il est jugé comme pas assez révolutionnaire, en fait, hein, pas assez proche de la Terreur. C'est ça qui lui vaut d'être mis sur la liste des condamnés. Il échappe à l'échafaud de justesse.
Il échappe à l'échafaud et lui-même sera toujours totalement contre la guillotine, ce qui est pareil, un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on s'imagine être le rapport à la violence de Sade.
Mais encore une fois, enfin l'exemple type, c'est la belle-mère, par exemple, ce que je raconte, hein, la belle-mère qu'il a détestée toute sa vie, mais au moment où il se trouve dans la section des Piques, c'est dans le quartier de la Chaussée-d'Antin, il se trouve que monsieur et madame de Montreuil sont sur la liste des suspects, donc là il aurait suffi qu'il signe un papier pour qu'il soit guillotiné tranquillement, et il le fait pas. Il sauve sa belle-mère. C'est là qu'on voit qu'on peut fantasmer la vie de quelqu'un, la mort de quelqu'un, pardon, mais quand il s'agit de le faire dans la réalité, c'est deux choses différentes. C'est la même chose pour Sade. C'est pas parce qu'il écrit la violence, hein, qu'il l'a faite. Et ce qu'il nous montre dans ses textes, c'est ce dont l'homme est capable. là-dessus, moi, je pense comme lui qu'il n'y a aucune limite.
Et alors, il va ensuite être interné à Charenton, donc dans un asile. On ne le remet plus en prison, mais encore une fois, sans raison, hein, vous l'avez bien expliqué. Ça va être des années aussi contrastées, parce qu'il va y avoir des moments de bonheur quand même dans cet asile-là.
Ah ben, c'est ça que moi, je trouve fascinant dans cette vie, c'est qu'elle n'aurait pu être que du malheur, mais Saad arrive à trouver la force morale de sublimer, comme on dit aujourd'hui, hein, de faire d'une vie carcérale un destin beaucoup plus intéressant. En fait, c'est Bonaparte qui l'arrête, qui le déclare fou. Pourquoi ? Parce que Saad est l'auteur de Justine, et c'est ce texte-là qui lui vaut en fait d'être emprisonné. Donc Saad est en gros en prison psychiatrique pour son œuvre, cette fois, à la fin de sa vie. Et ce qui va le sauver, ce qui va faire que ses 14 ans à Charenton, parce qu'il y meurt, hein, il y reste de 1800 à 1814.
Il meurt très âgé d'ailleurs, à 74 ans.
Oui, costaud quand même le Saad, parce que quand on voit la vie, je me dis normalement il aurait dû mourir à 55 ans, mais non, tranquillement, c'est quelqu'un de résistant quand même, hein, ça dit quelque chose. Ce qui le sauve, ce qui fait de ce séjour psychiatrique quelque chose d'assez heureux, c'est le directeur de l'hôpital psychiatrique, hein, le fameux Coulmier, qui lui est très progressiste. Et qui comprend très bien, voilà, puis qui comprend très bien que Saad est juste un opposant politique. C'est pas du tout la même chose. Et Bonaparte fabrique des fous, hein, très facilement. Comme il exile Staël, il enferme Saad. Finalement, c'est les mêmes, c'est à peu près pour les mêmes motifs, ou presque. Et donc, c'est le théâtre qui va sauver Saad, hein. Parce que Coulmier est un de ces psychiatres modernes. On les appelle pas comme ça. On les appelle les aliénistes, mais qui pensent que les fous ne sont pas différents de nous, mais qui sont juste traversés par des scénarios qui ont besoin de s'extérioriser, que le théâtre va donc pouvoir purger l'étrangeté qui les habite. Et donc Saad, ayant toujours aimé le théâtre, Coulmier va avoir l'idée de génie de lui confier la responsabilité de la troupe et des soirées. Et donc Saad va non pas tant à écrire des pièces, parce qu'il va plutôt laisser les siennes dans ses papiers, mais va prendre des acteurs, faire des soirées, et finalement être plus heureux dans cette petite île isolée qu'à Charenton à l'époque, qu'il aurait été, ou qu'il a été même lorsqu'il a fait désespérément tenter de faire jouer ses pièces à Versailles pendant sa liberté. En fait, il arrive à être plus libre en prison qu'il l'aurait été dans sa vie civile.
Jusqu'à sa mort, le 2 décembre 1814, et son fils Donatien Claude Armand ne respectera pas ses dernières volontés inscrites dans son testament, puisqu'il voulait être enterré au sous-bois de sa terre de Malmaison, et qu'il sera finalement enterré de manière religieuse, ce qui va totalement à l'encontre de sa philosophie. Merci beaucoup Stéphanie Genant. Pour aller plus loin dans la connaissance de la vie de Saad, dont on n'a fait qu'effleurer les moments les plus importants, j'envoie nos auditeurs à votre biographie inédite. Elle vient de paraître aux éditions Gallimard dans la collection Folio Biographie.